Alors maintenant, vous allez écouter le séminaire de Florent Renaud, qui est un chercheur à l'université de Lund en Suède, qui est un expert des simulations numériques de galaxies, qui va nous montrer ce qu'il fait en ce moment.
Merci beaucoup, Françoise, pour cette introduction très complète et pour ce cours et pour cette invitation très aimable. Bonsoir à tous. Donc, oui, je m'appelle Florent Renaud, je viens de l'université de Lund, qui est au sud de la Suède. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais il fait meilleur temps là-bas qu'ici. On n'a pas encore eu de neige cette année. Et j'ai décidé de vous parler, en rapport avec le cours de Françoise, d'instabilité dans le cadre de la formation d'étoiles, dans la formation stellaire. Mais avant toute chose, j'ai une faveur à vous demander. Je vais vous demander d'excuser les très nombreux anglicismes, voire même les mots d'anglais que je vais utiliser pendant cette présentation. La recherche est internationale, surtout en astrophysique, et la langue internationale, qu'on le veuille ou non, c'est l'anglais. Et donc j'en utilisais beaucoup de mots anglais pendant ce talk, à la fois dans mon speech et dans les slides de mon PowerPoint. Alors, j'ai choisi de traiter ce sujet, la formation stellaire, à travers un petit peu un paradoxe, puisque je vais essayer de vous montrer à la fois une diversité de la formation stellaire et une universalité. Mais en guise d'échauffement, en tout cas pour moi, on va faire une introduction. Je vais passer assez rapidement sur la motivation de s'intéresser à la formation des étoiles. En prenant un petit peu de recul, je vous amène 13,7 milliards d'années en arrière et on va voir en quelques minutes uniquement les bases de la formation des galaxies, puisque vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes dans les processus physiques pour la formation des galaxies et pour la formation des étoiles. Je vais laisser aux cosmologistes les complications et aussi les incertitudes du Big Bang, et on va se placer environ 380 000 ans après le Big Bang. Et à cette époque-là, l'univers est un plasma de particules chargées dans lesquelles les grains de lumière, les photons, ne peuvent pas se propager, ils sont en permanence absorbés. Mais cet univers est également en expansion, et du fait de cette expansion, il refroidit, et à partir de cette époque, justement, les noyaux vont pouvoir capturer les électrons, ce qui va diminuer la section efficace d'interaction et permettre à la lumière de se propager. Donc l'univers passe d'opaque à transparent, et on observe cette lumière, cette première lumière de l'univers en regardant loin, donc du fait de la vitesse finie de la lumière en regardant tôt, il y a longtemps dans le passé. Et on l'observe, et voilà à peu près ce qu'on a. Si on a une carte du ciel projetée ici, voilà ce qu'on a, une incroyable uniformité à 2,7 Kelvin de température, ce qui correspond à l'émission d'un corps noir à environ 7 cm. Et si on soustrait cette partie très uniforme, eh bien on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ce sont des fluctuations de l'ordre de 10 puissance moins 5 degrés Kelvin, donc beaucoup plus extrêmement petite, minuscule, mais très très loin d'être négligeable, puisque ces fluctuations en densité et en température sont finalement la base, l'origine de la formation de toutes les structures dans l'univers. Et en particulier, les halos de galaxies, ou de jeunes galaxies, qui à cette époque sont constitués de matière noire et de gaz, principalement de l'hydrogène, un petit peu d'hélium. Alors ces fluctuations, si on les implémente dans une simulation, un cube de l'univers, comme vous voyez ici, on va voir leur amplification, on va voir que les surdensités vont accréter de plus en plus de matière, et au bout de quelques instants, vous allez commencer à percevoir les grandes structures, les filaments interstellaires de la toile cosmologique, et puis dans les parties les plus denses, les galaxies, et à l'intersection de ces filaments, les amas de galaxies. Alors, dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en particulier dans la formation stellaire, c'est surtout le gaz. Et la partie importante, c'est son aspect collisionnel, ou dissipatif, si vous voulez, c'est-à-dire les forces de friction, les forces de pression, qui vont s'opposer à l'autogravitation, à la gravitation de ce gaz, et qui vont avoir tendance à compenser cet effet. Alors, si on veut former des galaxies ou des étoiles, le but du jeu, c'est d'obtenir une densité très forte, c'est-à-dire de réduire cette pression par rapport à la densité, par rapport à la gravité. Et donc, pour faire ça, on peut refroidir le gaz. Si on le refroidit, on va baisser sa pression jusqu'à temps qu'elle domine la gravitation. Alors, comment peut-on faire ça? On a plusieurs façons de le faire, mais l'idée de base, c'est de convertir l'énergie thermique ou l'énergie de pression en quelque chose d'autre dont on va pouvoir se débarrasser, c'est-à-dire en rayonnement. On va pouvoir avoir des refroidissements par l'émission de plusieurs types que vous voyez ici représentés. En fonction de la température, vous avez la fonction de refroidissement qui est normalisée par le taux d'interaction entre les particules. Et on va s'intéresser ce soir à cette courbe ici en bleu, puisqu'elle correspond à la composition chimique de l'univers primordial, donc pour la formation des galaxies. Et on va avoir principalement trois modes de refroidissement. Le premier, je vous le donne en anglais et en allemand, Free-Free and Brennstrahlung. Je crois qu'en français, c'est le rayonnement de freinage, c'est-à-dire la perte d'énergie cinétique des électrons au passage d'une particule positive. Et cette émission free-free, donc cette conversion de l'énergie cinétique des électrons en rayonnement, va vous permettre de refroidir sur cette partie-là de la courbe. Donc vous refroidissez votre gaz, et à partir d'un certain moment, ces électrons vont pouvoir être capturés par les noyaux, une recombinaison collisionnelle que vous voyez ici. Et associé à cette recombinaison, votre électron va se placer dans des niveaux énergétiques élevés. Donc vous avez encore le moyen de perdre de l'énergie si vous faites transiter votre électron vers des niveaux plus faibles, ce qui correspond finalement à une désexcitation collisionnelle. Et c'est ce que vous voyez ici dans ces deux pics. On a deux pics parce que ici, celui-ci correspond à l'hélium et celui-ci à l'hydrogène. Donc à la fois la recombinaison, donc le contraire de l'ionisation, et la perte d'énergie par désexcitation. Et vous voyez que pour la composition, une composition atomique de gaz, on a un refroidissement assez efficace au-dessus de 10 000 Kelvin, au-dessus de 10 puissance 4 Kelvin. Si on veut des températures plus faibles, on a besoin d'autres transitions, d'autres opportunités de rayonnement qui vont être fournies principalement par les molécules, entre autres par les liaisons entre les atomes, les molécules. Et donc, vous voyez que pour du gaz plus froid que 10 puissance 4 Kelvin, et comme Françoise vous l'a montré, ça fait partie du milieu froid, la phase froide du milieu interstellaire, on a besoin de molécules, et donc on va beaucoup parler pour la formation d'étoiles de gaz moléculaire. Une fois qu'on a augmenté cette densité de gaz en réduisant sa pression, en augmentant sa densité, et en laissant la gravitation permettre au gaz de s'effondrer, eh bien, on va fragmenter ce gaz dans des nuages géants moléculaires. Vous en avez un exemple ici. Ce phénomène va continuer avec un effondrement dans certaines parties localisées des nuages, en effondrement de cœurs préstellaires, qui, eux, vont croître par accrétion du gaz autour d'eux. Vous en avez un exemple là. Puis, on va se débarrasser de l'enveloppe de ces corps, et on va former des proto-étoiles qui, elles, vont se contracter, encore augmenter leur densité, jusqu'à former des étoiles elles-mêmes. Ici, vous les voyez enfouies dans le gaz. Alors, ces étoiles, elles brûlent leur gaz, elles consomment leur gaz par action thermonucléaire de la très forte densité, elles fusionnent, donc dans l'univers primordial, principalement l'hydrogène et un petit peu l'hélium, et elles vont former les éléments les plus lourds, donc carbone, azote, oxygène, etc. Mais ces étoiles ont également des effets de rétroaction sur l'environnement, qu'on appelle typiquement feedback en anglais, par exemple les vents stellaires, les supernovae, comme vous voyez ici, qui vont se charger de disperser ces éléments chimiques dans l'environnement de l'étoile, dans le milieu interstellaire et aussi dans le milieu intergalactique. Et comme Françoise vous l'a dit, également pendant les explosions de supernovae, on va se trouver dans des conditions physiques encore plus extrêmes qui vont permettre de former des éléments plus massifs, entre autres plus massifs que le fer, lors de ces explosions. Et c'est important parce que tous ces éléments qui sont formés dans les étoiles et lors de l'explosion des étoiles les plus massives, eh bien finalement, c'est tout ce qui constitue les matériaux pour former la seconde génération d'étoiles et la troisième, les éventuels systèmes planétaires autour de cette étoile et puis tout ce qui est dans cette salle, tous les éléments que l'on connaît ont été formés dans les étoiles. Donc voilà vraiment pourquoi comprendre la formation stellaire, le processus de formation stellaire dans le contexte de formation des galaxies est quelque chose de tout à fait important pour comprendre nos origines. C'est ce que je montre ici, comprendre les origines des galaxies, de la Voie lactée en particulier, mais de toutes les galaxies en général, revient à comprendre la formation stellaire, et comprendre la formation stellaire revient à comprendre les ruptures d'équilibre du milieu interstellaire, entre autres, entre la pression et la gravité. C'est un sujet qui est loin d'être simple, puisqu'il est par nature multiphysique et multi-échelle. Vous voyez ici les les plus grandes structures de l'univers, la toile cosmologique avec les filaments intergalactiques. Chaque point jaune ici représente une galaxie dans cette simulation. Et puis, c'est ce qui met en place la scène pour notre histoire, qui se continue par la formation des galaxies elles-mêmes, l'accrétion de gaz, la conversion de ce gaz en étoile, l'évolution de ces régions de formation, avec ici, vous voyez, quelques explosions de supernova, les interactions entre les galaxies, la fragmentation du milieu interstellaire, la formation des filaments interstellaires au cœur des nuages de gaz, jusqu'à ce que finalement on atteigne notre formation d'étoiles, notre amas stellaire. Et à travers ce processus multi-échelle, donc ici on couvre à peu près 9 ordres de grandeur à la fois dans l'espace et dans le temps, on a également toute une série, toute une collection de processus physiques à prendre en compte, un aspect multiphysique, j'en indique quelques-uns ici avec les échelles associées, l'accrétion de gaz, interaction, fusion, turbulence, refroidissement, cisaillement, magnétisme, vent et feedback stellaire, ionisation, gravitation, entre autres. Donc, le programme est chargé. Je commence donc à entrer dans le vif du sujet à travers la première partie où je vais essayer de vous démontrer qu'il existe une universalité, la formation stellaire. En physique, on aime bien les choses qui fonctionnent partout de la même façon et tout le temps. Donc, université de la formation stellaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, dans nos nuages, qui se forment par instabilité du gaz dans la composante gazeuse des galaxies, on va avoir un rôle prépondérant des mouvements à petite échelle du gaz, c'est-à-dire de la turbulence. Ici, vous avez une observation du nuage Polaris, et vous voyez, donc les échelles sont indiquées ici, elles sont assez petites, et vous voyez tous les mouvements turbulents qui créent ces structures complexes, et entre autres, des structures filamentaires. Ces structures filamentaires, on a longtemps pensé qu'elles étaient formées par champ magnétique. Il se trouve qu'on arrive à les former dans les simulations sans inclure le champ magnétique, donc c'est vraiment la combinaison de la turbulence et de la gravitation. Par contre, le champ magnétique pourrait permettre de les confiner, voire de les allonger dans certaines conditions. Le long de ces filaments, vous avez des zones de surdensité qui vont fragmenter de façon gravitationnelle et qui vont former les cœurs préstellaires dont j'ai déjà parlé. Eh bien, cette structure, ces processus, on les retrouve non seulement dans ces nuages, mais dans d'autres. Vous trouvez toujours cette même structure filamentaire, cette même morphologie relativement complexe dans d'autres nuages qui sont observés dans la Voie lactée. Et on s'aperçoit que leurs propriétés sont également universelles. Le diamètre des filaments semble être toujours le même, quel que soit le nuage, un dixième de parsec. On a aussi des densités critiques pour la formation des cœurs préstellaires qui sont universelles. On les exprime en termes d'extinction, donc une extinction supérieure à 7. Toujours la même, pareil, quel que soit le nuage. Et puis, on retrouve toujours les mêmes processus de formation d'amas, d'associations stellaires, d'associations d'étoiles, aux intersections de filaments, c'est-à-dire là où la densité est la plus forte. Tout ceci, on arrive à le reproduire avec des simulations, y compris avec des conditions initiales relativement simples. Vous avez vu, on est parti d'une sphère de gaz avec un petit peu de turbulence, et vous allez voir assez rapidement la formation de filaments, de structures filamentaires. Ici, on zoome, et dans quelques instants, vous verrez la formation des étoiles dans les parties les plus denses, et entre autres, à l'intersection de ces filaments. Vous allez voir des petits points blancs, les voilà, qui apparaissent. Voilà nos jeunes étoiles qui se forment par fragmentation de ce gaz turbulent. Tout ceci se fait selon un autre processus, selon une autre caractéristique qui semble elle aussi être universelle, c'est la fonction de masse initiale, c'est-à-dire la distribution en masse des amas au moment de leur formation. Ici, donc, vous avez l'histogramme des masses des étoiles, mesuré pour les Pléiades ici. Et on peut décomposer cette distribution en trois grandes parties. Une partie à forte masse, ici, qui peut s'apparenter à une loi de puissance. Une zone de transition, à peu près autour de la masse du Soleil. Et une partie à faible masse, qui est une loi de puissance, mais dans l'autre sens, jusqu'aux naines brunes, c'est-à-dire les étoiles qui n'ont pas réussi à s'allumer. Eh bien, cette distribution des masses des étoiles, cette fonction de masse initiale, elle dérive directement des processus de fragmentation du gaz et des processus d'accrétion des cœurs préstellaires. Et on la retrouve universellement dans tous les nuages que l'on observe. Le point important ici, c'est qu'elle est relativement difficile à mesurer, puisqu'on a besoin non seulement de la masse, donc quelque chose qu'on ne mesure pas directement pour les étoiles, mais on a surtout besoin de la masse au moment de la formation, donc on est assez limité sur les mesures relativement directes en ce qui concerne ces propriétés. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Eh bien, cette fonction de masse initiale, quand on regarde différentes associations, différentes amas d'étoiles, eh bien, on trouve toujours la même forme. La pente à forte masse qui semble être universelle, la zone de transition, et la pente à faible masse, qu'on voit dans les associations, les amas denses, le champ même ici, et aussi dans les amas ouverts et les amas globulaires, à condition de revenir aux propriétés initiales de ces amas. On a bien évidemment des variations stochastiques du fait que n'importe quel amas ne contient pas forcément les masses pour former les étoiles les plus massives, mais ceci mis à part, on a une forme relativement universelle, donc encore une fois une propriété universelle qui s'ajoute à la morphologie universelle, à la densité universelle, à la taille universelle de ces filaments dans les régions de formation stellaire. Tout ceci étant régulé par le feedback des étoiles elles-mêmes, donc les phénomènes de rétroaction, le vent, l'ionisation par les photons les plus énergétiques, la pression de radiation et les supernovae. Et on s'est rendu compte avec des simulations assez récemment que ces processus de rétroaction sont particulièrement cruciaux, nécessaires pour reproduire les observations. Ici, je vous montre les distributions de trois quantités qu'on mesure dans des nuages, donc leur masse, leur rayon et leur dispersion de vitesse. Vous avez trois distributions. En rouge, la simulation qui inclut les phénomènes de feedback. En bleu, exactement les mêmes simulations, mais on a éteint les phénomènes de feedback. Et en noir, les observations des nuages de la Voie lactée. Et vous vous rendez compte que la simulation avec feedback, donc le rouge, permet une bien meilleure correspondance aux observations que les simulations sans feedback en bleu, où les nuages sont trop massifs, trop larges et ont une trop grande dispersion de vitesse. Donc vraiment cette régulation du feedback, à la fois sur l'évolution stellaire, mais aussi sur leur environnement et leurs nuages hôtes, est vraiment cruciale dans l'évolution des composantes de la galaxie. Et ce, à la fois dans l'environnement proche des nuages qui émettent ce feedback, qui injectent cette énergie, mais aussi dans le milieu interstellaire et même parfois dans le milieu intergalactique. C'est ce que vous voyez ici avec le spectre de puissance de l'énergie cinétique, c'est-à-dire en fonction de l'échelle où se trouve la puissance qui est portée par l'énergie cinétique. Vous voyez encore la même simulation avec feedback en rouge, sans feedback en bleu. Alors évidemment, aux petites échelles où la formation stellaire a lieu, on a une très grande différence, mais on pourrait possiblement s'attendre à ce que les deux convergent aux grandes échelles, c'est-à-dire aux échelles galactiques, qu'on voit peu de différences. Eh bien non, ces différences sont maintenues, quelle que soit l'échelle, on a toujours cette différence entre feedback et pas de feedback. Une façon peut-être plus simple de le voir, c'est de regarder directement les cartes de densité de gaz, la simulation, donc c'est une galaxie de type Voie lactée. Donc avec feedback, vous la voyez ici de face et en bas par la tranche, exactement la même simulation mais sans le feedback, vous avez des morphologies complètement différentes, non seulement à l'échelle de formation d'étoiles, c'est-à-dire dans les parties les plus internes de ces régions de formation stellaire, mais aussi à toute l'échelle de la galaxie, vous voyez des morphologies complètement différentes, ce qui confirme ce que je vous ai montré précédemment. Et si on regarde ici la partie vue par la tranche, on voit également une dispersion de vitesse et donc une épaisseur du disque qui est beaucoup plus fine, sans l'énergie injectée par ce feedback par les jeunes étoiles. Donc tout ceci nous montre une université de la formation stellaire sur un certain nombre d'aspects, mais tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant concerne la Voie lactée. Que se passe-t-il si on va dans une autre galaxie ? Eh bien, une façon de le faire, c'est de montrer le diagramme de Schmidt-Cainicutt, c'est-à-dire le lien entre la densité surfacique du gaz et la densité surfacique de formation d'étoiles, SFR, Star Formation Rate en anglais. C'est-à-dire la masse des étoiles qui sont formées par unité de temps et par unité de surface. Donc ça, je peux faire à l'échelle que je veux, mais comme il s'agit d'une densité, il est très important de préciser l'échelle à laquelle les mesures sont faites. Et on va le faire ici, dans ce cadre, à l'échelle de galaxie entière. Donc on va faire une seule mesure par galaxie, on va obtenir un point à placer dans ce diagramme, ou alors sur des larges portions de galaxie, c'est-à-dire plus de 100 parsecs. Ce que j'entends par là, c'est plus grand que l'échelle caractéristique d'un nuage individuel. Donc on capture toute une diversité de nuages à cette échelle-là. Et si on fait ça sur les galaxies type Voie lactée et autres galaxies spirales dans l'univers local, voilà la distribution des points qu'on obtient. Donc vous voyez ici toute une collection de points. Ici, vous avez des contours avec des mesures nombreuses dans certaines galaxies. Et vous avez une relation qui est relativement bien définie, avec un petit peu de dispersion, mais finalement assez peu, puisqu'on couvre quand même pas mal d'ordres de grandeur. Alors, on voit encore une fois une universalité assez nette, une loi unique pour décrire la formation d'étoiles en fonction de la densité de gaz. Mais comment est-ce que cette loi se comporte si on considère un environnement plus violent, complètement différent ? Eh bien, le premier environnement qui vient à l'esprit, Françoise vous en a parlé, ce sont les galaxies à haut redshift, c'est-à-dire dans l'univers plus jeune, les clumpy galaxies, que je traduis par galaxies grumeleuses. Vous en avez ici quelques exemples d'observations. Vous voyez la prépondérance de grumeaux dans une structure plus ou moins disque. Donc on les trouve à redshift à peu près 1 et 2, c'est-à-dire il y a 8 à 11 milliards d'années. Et à cette époque-là, les galaxies n'ont pas encore eu le temps de former beaucoup d'étoiles, donc il leur reste encore 30 à 60% de leur gaz, 30 à 60% de leur matière baryonique est sous forme gazeuse, et le reste est sous forme stellaire. Donc encore beaucoup de gaz, et comme Françoise l'a dit, cette grande quantité de gaz va permettre aux instabilités gravitationnelles de se former, et donc de générer ces grands clumps, ces grands grumeaux de matière, très massifs, très larges, 1 kg par sec à peu près, et quelque chose de l'ordre de 10 puissance 7 à 10 puissance 9 masse solaire, donc quelque chose qui est significativement plus grand et plus massif que les nuages moléculaires typiques de la Voie lactée, par exemple. Ces grumeaux massifs sont des amas de gaz denses, c'est-à-dire qui permettent d'abriter de la formation stellaire, et ce, à des taux de formation qui sont beaucoup plus élevés que ceux typiques dans l'univers local, par exemple de la Voie lactée, où on aura 100 fois à 1000 fois plus de taux de formation stellaire, donc de masse de gaz convertie en étoile par unité de temps. Et on pense que dans ces grumeaux massifs qui forment beaucoup d'étoiles, ça pourrait être les lieux de formation des amas globulaires. On n'en est pas encore tout à fait certain, mais c'est un scénario possible, puisqu'on a une grande quantité de gaz qui est disponible pour former des systèmes stellaires. Alors, revenons à notre diagramme de Schmidt-Kennicott ici, et où se trouvent ces galaxies à haut redshift, donc dans l'univers jeune, sur ce diagramme, eh bien, elles sont ici. Elles sont dans la parfaite continuité de la relation qu'on avait esquissée au début, et finalement, on peut en dériver une loi de puissance qui relie donc la densité de taux de formation stellaire à la densité de gaz avec un indice historiquement d'1,5. Maintenant, on l'a revu un petit peu à la baisse, mais une pente relativement bien définie avec relativement, encore une fois, peu de dispersion. Donc, encore une fois, un aspect d'universalité, puisque même si je considère des galaxies extrêmes, très différentes, beaucoup plus jeunes que les spirales de l'univers local, on a toujours la même loi, on a une apparente universalité de cette loi de formation stellaire. Et ce qui m'amène à ma deuxième partie, c'est-à-dire la diversité de la formation stellaire. Donc maintenant, je vais m'efforcer de vous expliquer exactement le contraire de ce que je viens de dire. Alors, pourquoi parler de diversité de la formation stellaire ? Bien, restons un petit peu sur le diagramme de Schmidt-Kennicott et essayons d'imaginer des systèmes encore plus extrêmes, encore plus différents, que ben, finalement des spirales avec des nuages et des disques avec des nuages, certes plus massifs, certes formant leurs étoiles plus rapidement, mais tout ça reste du même ordre. Eh bien oui, il y a des galaxies beaucoup plus extrêmes, ce sont celles à flambée de formation stellaire ou à sursaut de formation stellaire, en anglais les starbursts, qu'on voit le plus souvent dans les galaxies en interaction. Ainsi, vous en avez l'exemple typique de galaxies en interaction. Pourquoi ? Parce que ce sont les galaxies en fusion les plus proches de nous, donc les mieux résolues et les plus observées. Elles sont uniquement, entre guillemets, à 20 mégaparsec de distance. C'est les galaxies des antennes. Et vous voyez ici, ces longues queues de marée, de gaz et d'étoiles qui ont été formées du fait de l'interaction, donc de l'effet de marée d'une galaxie sur l'autre, qui éjecte à peu près un tiers de la matière des disques pour former ces longues queues de marée ici. Si on regarde la partie centrale, on voit une richesse de structures et d'objets, et entre autres, énormément de formations stellaires ici. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont deux galaxies qui sont sur le point de fusionner. Vous avez la première galaxie en haut, ici, que vous voyez quasiment vue de face, et la deuxième galaxie, ici à gauche, qui est inclinée avec un angle d'à peu près 60 degrés, on pense. Et donc, ce que vous voyez, c'est finalement un système qui serait à peu près comme ça, comme ceci. et elles se touchent, elles se superposent dans cette région où on voit beaucoup de formations stellaires en rouge, beaucoup d'atténuation et d'extinction par le gaz en marron ici. Alors, du fait de cette collision, du fait de cette interaction, on a évidemment beaucoup de collisions entre les réservoirs de gaz et également de la compression du gaz par des effets de turbulence. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je pourrais parler de ça jusqu'au réveillon. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a toutes les conditions physiques nécessaires pour augmenter la densité de gaz et donc former des étoiles de façon efficace. Et c'est en effet ce qu'on voit. On a des augmentations violentes, de courte durée et temporaires, du taux de formation stellaire qui se fait être multiplié par des facteurs de 10 à 100 par rapport à un état où les deux galaxies sont encore isolées. Et on le voit très bien sur cette image, vous avez des zones de formation stellaire ici, également ici. On voit la lumière UV bleue des étoiles directement ou la lumière réémise, UV réémise et réémise en infrarouge par le gaz, ici en rouge ou rose, dans certaines régions. Et ici encore, on a la formation d'amas stellaires massifs de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 masses solaires, donc plus massifs que ceux qui sont actuellement formés dans la Voie lactée, du fait de ces conditions extrêmes. Alors ici, on a vraiment un cas très différent des galaxies spirales locales, des galaxies disques à redshift. Donc on peut se demander où est-ce qu'elles atterrissent dans notre diagramme de Schmidt-Cannicutt. Eh bien, elles sont ici. Ce sont les LIRGs et les ULIRGs en anglais, Ultraluminous Infrared Galaxies, c'est-à-dire les galaxies ultralumineuses en infrarouge. Et leur potentiel équivalent à redshift dans l'univers lointain sont les galaxies submillimétriques, ici en orange. Donc, si je résume la situation, je prends deux spirales, deux points noirs, je les fais fusionner et j'obtiens un point bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du fait de la collision, du fait de l'interaction, j'augmente la densité de gaz. Donc, je me déplace vers la droite. Cette augmentation de la densité de gaz traduit par une augmentation de la formation stellaire. Donc, je me déplace vers le haut. Mais je ne le fais pas en suivant la loi qu'on avait établie précédemment. Je le fais de façon plus efficace. Je suis au-dessus, systématiquement au-dessus de cette loi. J'ai donc mis en évidence un deuxième régime de la formation d'étoiles. Donc ici, l'interaction amène une augmentation violente et temporaire du taux de formation stellaire, donc un déplacement vers la droite, mais aussi de l'efficacité, puisqu'on va passer au-dessus de la relation prédite. On a des galaxies hors la loi, en quelque sorte, qui forment, pour une quantité de gaz donnée, plus d'étoiles que la loi initiale le prévoyait. Alors, je vous ai parlé de la formation d'étoiles comme produisant des amas stellaires. On a, comme vous le savez, deux types d'amas stellaires, des amas globulaires, comme vous voyez ici, Messier 4, par exemple, qui sont des amas vieux, formés il y a 10 à 12 milliards d'années, qui sont très massifs, jusqu'à 10 puissance 6 masses solaires, et qui sont denses. Et dense, ici, veut dire résistant, c'est-à-dire que leur autogravitation permet aux étoiles de rester un ensemble cohérent qui va résister aux perturbations de la galaxie, par exemple les champs de marée. Ils sont à opposer ici aux amas ouverts, dont Messier 45, autrement dit les Pléiades, qui sont beaucoup plus jeunes, peu massifs, et qui sont peu denses, donc fragiles, et qui vont se disloquer assez rapidement, en quelques centaines de millions d'années, et leurs étoiles vont cesser d'être liées les unes aux autres. Alors, dans ce contexte, les amas stellaires, vous allez me dire, on a une différence net entre les amas globulaires et les amas ouverts, ne serait-ce qu'en termes d'âge. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant que dans la Voie lactée, on peut trouver à la fois des amas comme ceci et des amas comme ça. Les deux étant visibles à l'œil nu, si vous trouvez un site d'observation, vous pouvez voir les deux. Donc, dans la Voie lactée, donc finalement, dans une même galaxie, dans des conditions de formation, semblables, mais à des époques de formation très différentes, et donc dans des conditions de formation qui sont potentiellement différentes. C'est ce que je vais illustrer ici en vous montrant une simulation d'une boule d'univers qu'on a faite. Vous verrez la matière noire en rouge, le gaz en bleu, les étoiles vont apparaître en jaune, et je vais tracer également l'enrichissement chimique de l'galaxie, comme l'a dit Françoise, on peut le tracer avec le fer que les étoiles vont former au cours de leur évolution. Alors c'est parti, on voit l'évolution d'une boule autour d'une galaxie type Voie lactée que l'on a modélisée. Donc les amas globulaires se forment à peu près maintenant. Vous voyez les galaxies, les étoiles qui apparaissent. la Voie lactée au centre, qui va interagir avec ses voisines, accréter pas mal de ces galaxies voisines, y compris des galaxies de masse importante. Et puis, vous voyez, progressivement, eh bien, on enrichit en fer, le milieu devient de plus en plus vert sur cette représentation. Donc, à la fois dans la galaxie, bien évidemment, mais on le voit aussi dans le milieu intergalactique. Et donc, cette évolution chimique de la galaxie, on peut la tracer en examinant les diagrammes âge-métallicité des étoiles et des amas globulaires qui capturent, au moment de leur formation, la métallicité des nuages, les sites de leur formation. Alors ici, on fera la différence entre deux types d'amas. En vert, vous avez les amas du halo de la Voie lactée. Donc ça, c'est des opérations. Et en violet, vous avez des amas dans le disque de la Voie lactée. Alors pourquoi faire la différence entre ces deux types d'amas? Parce qu'on pense que, en tout cas, la majorité, peut-être pas tous, mais la majorité des amas du halo ont une origine extragalactique. Ils sont formés dans d'autres galaxies qui ont été accrétées par la Voie lactée au cours de son évolution. Donc, ils ont finalement des conditions de formation assez différentes et diverses. Donc, il est assez difficile d'en extraire une information. En revanche, les amas du disque de la Voie lactée se sont formés in situ, pour leur majorité, encore une fois. Et donc, ils capturent vraiment l'évolution de la galaxie Voie lactée au cours du temps. Donc, le temps va de haut en bas. Et sans oublier les petits points ici qu'on voit à peine sur le haut, on a une sorte d'évolution, un tracé d'évolution chimique, en quelque sorte, des régions de formation des amas globulaires dans la Voie lactée. Et donc, on voit l'enrichissement du milieu interstellaire et également les changements de conditions de refroidissement. Parce que si je change la composition chimique, je change les opportunités de rayonner l'énergie interne du gaz à travers la lumière. Et donc, je vais avoir différentes façons de réduire la pression de mon gaz. Donc, une fragmentation différente équilibres entre, d'un côté, la pression et, de l'autre, la gravitation. Alors, est-ce que ces différences sont suffisantes pour expliquer la différence entre les amas globulaires et les amas ouverts? Non. Mais il faut prendre en compte d'autres processus, mais ça nous dit déjà que dans des nuages, on aura des processus de fragmentation et donc une structuration des régions de formation de stellaires qui sera différente du fait de l'enrichissement de la galaxie. Alors laissons tout ça de côté et concentrons-nous un petit peu sur les structures de la galaxie et en premier lieu desquelles les spirales dont Françoise a parlé en grand détail. Je serai beaucoup plus superficiel. Ici, vous avez un magnifique exemple de galaxie spirale, Messier 83, et vous voyez clairement, sans besoin d'analyse poussée, que les régions de formation stellaire sont associées à ces structures spirales ici. On retrouve nos structures émettant en infrarouge, donc le gaz, et les structures bleues des étoiles jeunes elles-mêmes. On a ici des ondes, alors avec toutes les limites dont Françoise a parlé, on a ici des ondes de densité et pas de matière, donc la matière passe à travers l'onde spirale, et le rôle de cette onde n'est pas clairement établi en ce qui concerne l'information stellaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas encore faire la différence s'il s'agit d'un phénomène d'accumulation ou de compression du gaz. Ici, vous avez un exemple de simulation dans lequel le potentiel est fixé. Françoise en a montré aussi quelques exemples. Donc, les spirales sont fixes, mais le gaz se déplace en suivant ce potentiel. Et vous voyez toute la collection de nuages dont Françoise a parlé, c'est-à-dire les feathers, dont les plumes, les spurs, les perles, etc. Alors, ici, on voit la formation de nuages qui est plus efficace dans les bras spiraux du fait de la plus grande concentration de gaz et du fait aussi du potentiel sous-jacent, potentiel gravitationnel sous-jacent. Mais alors, dans le même temps, on a une destruction des structures gazeuses qui est plus efficace au moment où le gaz sort de la spirale, où il n'a plus, en quelque sorte, ce cocon protecteur de la spirale. Mais en parallèle de ça, on a finalement mesuré peu d'effets des spirales sur la fraction de gaz moléculaire en termes d'efficacité de formation d'étoiles. Ici, vous voyez, pour trois galaxies, on montre les distributions, donc les nombres de les histogrammes de formation, d'efficacité de formation du gaz moléculaire H2. Et si vous regardez les nuages qui sont dans les bras, c'est-à-dire les traits pleins, et que vous la comparez à ceux qui sont entre les bras, c'est-à-dire les traits pointillés, eh bien, on a très très peu de différence. Donc on n'est pas encore en mesure de savoir si la prépondérance des régions de formation qui est observée dans les spirales est due à un simple phénomène d'accumulation, donc des surdensités de régions de formation, ou bien vraiment un effet de compression par l'onde. Et comme Françoise l'a déjà montré, ici on peut voir dans la galaxie M51, donc du tourbillon, avec le compagnon qui serait au-dessus ici, on a toute une diversité de ces régions de formation, selon la région dans laquelle on se trouve, par rapport à la corrotation, par rapport à les différentes ondes qui sont sous-jacentes. On voit ici clairement des structures le long de la spirale, au sein de la spirale, alors qu'ici on a des structures beaucoup plus en avant de la spirale. Et bien ceci, on arrive cette diversité de nuages, on arrive à la reproduire numériquement. Je vais vous montrer ici différentes régions d'une même simulation de la Voie lactée. On voit ici ce dont parlait François, les perles, donc les bits on a string en anglais, donc des nuages qui suivent l'alignement de la galaxie spirale. Et dans la même simulation, dans la même galaxie, au même instant, on a aussi ce genre de structure qui sont des éperons, des spurs, avec des petits crochets en avant de la spirale, du côté avant de la spirale. Alors la différence ici, donc François a mentionné des effets magnétiques, dans cette simulation ils ne sont pas pris en compte, donc on sait que ce n'est pas le cas pour ces deux types de nuages en particulier. La différence pourrait venir plutôt du pitch angle des bras. Alors imaginons que le centre galactique est en bas, vous avez une vitesse différentielle, donc la vitesse augmente avec le rayon vers le haut, et qu'on a une structure spirale comme ceci. Vous voyez que d'un bord à l'autre de la spirale, ici, c'est-à-dire sur la taille d'un nuage, j'ai assez peu de variation du champ de vitesse. Donc je vais pouvoir permettre à la gravitation de fragmenter mes nuages et de former ces structures comme ceci. En revanche, dans le deuxième cas, j'ai un pitch angle qui est beaucoup plus faible, et donc la spirale qui est plus alignée avec le champ de vitesse comme ça, du fait... Si je traverse la spirale, j'ai un grand gradient de vitesse entre les deux bords, c'est-à-dire entre les deux côtés d'un nuage, et donc un grand gradient de vitesse induit un cisaillement et des instabilités de Kelvin-Helmholtz, tel qu'on peut le voir ici, qui se forment du fait de la différence de vitesse entre la spirale et entre les deux bords de la spirale. Alors, en plus des spirales, on a aussi une diversité des régions de formation stellaire ailleurs dans la galaxie, par exemple au centre galactique. Voici une vue d'artiste de la Voie lactée. Évidemment, on n'a pas d'observation comme ceci. Si jamais vous êtes perdu, vous êtes ici, à 8 kiloparsecs du centre. Et ce qui va nous intéresser, c'est justement maintenant le centre, c'est-à-dire à peu près les 300 parsecs centraux de la galaxie. Donc on est bien à l'intérieur de la barre. Et pourquoi s'intéresser à ça? Parce que la barre, avec ses couples de forces gravitationnelles, va acheminer beaucoup de gaz vers la partie centrale. Il va s'accumuler ici, et on mesure dans ces 300 parsecs centraux 10 puissance 7 masses solaires de gaz moléculaire, c'est-à-dire une grande quantité de gaz froid susceptible de former des étoiles. Donc voilà, en voilà une observation de cette zone moléculaire centrale, une très, très jolie image qui comporte énormément d'éléments, je vais en souligner juste quelques-uns. Ici, vous avez le trou noir central de la Voie lactée, 4 millions de masses solaires. Évidemment, par définition, ce que l'on voit ici, ce n'est pas la lumière du trou noir, mais la lumière émise par l'échauffement du gaz qui est en train de tomber sur le trou noir. Et vous avez des structures très intéressantes et assez mystérieuses qui sont des amas stellaires, des arches et du quintuplet. Mystérieuses parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces amas ont pu se former ici, pourquoi ils n'ont pas été détruits par les forces de marée du centre galactique. Et puis, même si on sort sujet, je montrerai ici une étoile binaire X, donc très lumineuse dans la bande X. Alors, cette région comporte du gaz en moyenne plus chaud, plus dense, plus turbulent et plus riche en termes chimiques qu'ailleurs dans la Voie lactée. Et donc, du fait de cette grande quantité de gaz moléculaire avec ses caractéristiques, on s'attendrait à une assez forte activité de formation stellaire. Alors ici, je vous montre... dans le plan, c'est-à-dire longitude galactique et latitude. Donc ici, on voit la tranche, on voit la galaxie par la tranche, vue du Soleil, évidemment. Et on voit, dans les lignes du haut, vous avez les traceurs de formation stellaire, donc le H2, par exemple, le gaz ionisé par les jeunes étoiles. Et dans la ligne du bas, vous avez les traceurs de gaz dense. Donc on retrouve très bien ici notre zone moléculaire centrale, qu'on voit très nettement là-dessus. Et ce qui est frappant sur ce genre de relevé, c'est qu'on ne voit pas vraiment de corrélation entre la présence de gaz dense et les traceurs de formation stellaire. Vous en avez de la formation stellaire un petit peu partout, alors qu'il y a vraiment une surdensité, une surabondance de gaz dense dans la partie centrale, qu'on ne retrouve pas dans les traceurs de formation stellaire. Alors, voici une autre façon de l'illustrer. On va afficher la masse de gaz dense par rapport au taux de formation stellaire. Donc, si vous voulez, un équivalent du diagramme de Schmidt-Cainquette, mais cette fois-ci pas en termes de densité. On a nos galaxies là-haut, on a nos nuages de la Voie lactée classique en bas, ici en orange, et ces nuages de la zone moléculaire centrale en rouge, avec des moyennes ici en verte. Et vous voyez, regardez bien les échelles d'ordre de grandeur relativement importantes, vous voyez qu'il y a une grande différence entre les nuages classiques qui sont sur cette loi ici, la même que les galaxies, et les nuages de la zone moléculaire qui sont significativement moins efficaces à former leurs étoiles. Formation typiquement 20 fois moindre que celle qui est prévue par les modèles. Ces modèles de formation sont basés sur les critères de stabilité tels que les critères de Jeans, par exemple, donc la propagation d'une perturbation dans un milieu homogène, où on va comparer les effets de pression, ici représentés par la vitesse du son, et les effets gravitationnels, représentés par la densité. Qu'on le fasse en termes de longueur, caractéristique de la perturbation, ou de masse instable. Donc typiquement, on utiliserait ces critères, mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas en compte de l'environnement galactique, c'est la propagation d'une perturbation, dans un milieu homogène qui ignore l'environnement et sa richesse dans l'environnement galactique. Et entre autres, deux effets importants qui sont les effets de marée, c'est-à-dire l'effet différentiel de l'attraction gravitationnelle entre deux bords d'un objet, tel que la Lune l'exerce sur la Terre, mais tel que le centre galaxie l'exerce également sur nos nuages, et les forces de cisaillement, c'est-à-dire cette fois-ci une vitesse différentielle entre les deux bords d'un objet, qui va avoir tendance à déformer, étirer et détruire les structures nuageuses. Donc si vous voulez voir ces deux effets sous la forme d'un tenseur de stress ou de déformation, l'effet équivalent, pas directement, mais l'effet équivalent des marées seront les termes d'élongation et de compression, c'est-à-dire les termes diagonaux de votre tenseur, et les forces de cisaillement seront les termes croisés, c'est-à-dire les termes non diagonaux. Eh bien, ces deux effets de marée et de cisaillement sont particulièrement importants dans la région à laquelle on s'intéresse en ce moment, c'est-à-dire le centre galactique. Les marées, puisqu'on est près du centre, et donc dans une partie abrupte du potentiel gravitationnel, donc on a une très grande différence d'accélération entre les deux bords de n'importe quelle structure, mais entre autres des nuages de formation stellaire. Et les cisaillements, c'est également le cas, puisque si on trace en fonction de la distance la vitesse de rotation, donc la courbe de rotation de la galaxie, on a typiquement quelque chose comme ça. Vous savez que la partie plate correspond à motiver l'invention de la matière noire. Je dis invention puisqu'on ne parlera pas encore de découverte. Mais dans le centre galactique, on se place dans la partie très interne, c'est-à-dire la partie abrupte de cette courbe, où justement on a un très fort gradient de vitesse. Donc imaginez un nuage ici, vous allez avoir une très grande différence entre la vitesse au bord du nuage interne vers le centre de la galaxie et au bord externe de l'autre côté. Et c'est exactement ce que l'on voit, ce qu'on peut mesurer sur les simulations. Ici, une simulation de la Voie lactée. On retrouve ici la densité de gaz, donc la barre, les spirales, les bras spiraux. Et la couleur de cette carte ici encode le rapport entre le cisaillement et la gravitation pour les structures. Donc si je me trouve dans une partie bleue, on a une autogravitation relativement forte qui peut s'opposer aux effets de cisaillement. Et si je me place dans les parties rouges, c'est le contraire, le cisaillement domine les efforts de gravitation. Si on zoome sur la partie centrale, on voit ce que je vous ai dit très nettement dans la partie centrale, donc la barre est ici, dans la partie centrale, on est dominé par des régions rouges bien plus que dans les bras spiraux un petit peu plus loin, où là vraiment, vous voyez, on peut voir les nuages individuels qui ont plus facilement tendance à s'effondrer puisque le rapport cisaillement sur gravitation est plus faible. Et c'est justement à cause de ce rapport, qui est extrême au centre galactique, que toute structure qui passe dans notre zone moléculaire centrale va être lissée, détruite, si vous voulez, par des effets de cisaillement. Et donc, vous avez gardé une très grande quantité de gaz, mais sans surdensité. Vous n'avez pas de graines sur laquelle vous allez pouvoir vous effondrer. Et donc, ce lissage des surdensités explique pourquoi, malgré de fortes densités de gaz, on n'arrive pas à former d'étoiles autant que les lois le prédisent, autant que les modèles, on va dire naïfs, le prédisent. Alors, laissons de côté le centre moléculaire de la Voie lactée, on va un tout petit peu plus loin, on va aux extrémités des barres, cette fois-ci. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que ces extrémités, c'est les zones de convergence entre la barre, bien sûr, et les spirales qui s'y reconnectent. Et donc, vous avez une dynamique relativement complexe qui s'y forme avec des flots de gaz qui sont induits par la dynamique galactique. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des phénomènes de circulation le long de la barre, c'est-à-dire le long de cet axe ici, que vous voyez sur cette carte, encore une fois, issue de la même simulation. Vous avez la barre ici, je vous en montre qu'une portion, et les flèches représentent le champ de vitesse du gaz, donc vous voyez très nettement l'effet de circulation ici, sur des orbites de type X1. Une circulation qui est rapide, à plus de 200 km par seconde, ce qui représente moins de 20 millions d'années pour parcourir la distance qui sépare les deux extrémités de la Voie lactée. Et sur ce type d'orbite, les péricentres sont le long de l'axe mineur, les apocentres sont les extrémités le long de l'axe majeur. Et comme dans n'importe quelle orbite, les lois de Kepler nous disent qu'à l'apocentre, on ralentit. Donc imaginez-vous sur un circuit, au bord de la barre, en faisant le tour, et à chaque fois que vous arrivez à l'apocentre, donc à l'extrémité, vous ralentissez. Ce qui se passe, c'est un embouteillage orbital, en anglais orbital crowding. La différence entre votre voiture et un nuage moléculaire, c'est l'absence de pédale de frein. Et si le nuage moléculaire ne peut pas freiner, ralentit mais ne peut pas freiner, il va entrer en collision avec les autres nuages. Et c'est ce qu'on voit ici, à très petite échelle. Faites attention ici, l'échelle en kiloparsec, donc on est à uniquement quelques dizaines de parsecs là. On voit très clairement deux nuages en train de rentrer en collision, encore une fois dans la simulation. Vous voyez les deux structures ici, et clairement les deux signes d'interaction ici par des forces de marée, c'est-à-dire les mêmes effets qu'on voit dans les galaxies en interaction, mais à beaucoup, beaucoup plus petite échelle. Et bien, au moment de ces collisions, on a, qu'on retrouve d'ailleurs dans les observations, ceci était une simulation, ceci maintenant est l'observation, on a la région W43 qui est à l'extrémité de la vraie Voie lactée, on voit clairement deux structures avec éventuellement des structures allongées qui représentent des queues de marée au sein d'un complexe moléculaire assez important. On parle d'association moléculaire géante, donc un groupement de nuages moléculaires massifs en quelque sorte. Et au sein de ces structures, on a une augmentation de la formation, de l'efficacité de formation stellaire. Alors, en utilisant les données de la simulation, parce que c'est plus facile à mesurer, je vais les placer, mes structures gazeuses denses, dans un diagramme de Schmidt-Kinnicutt, donc encore une fois, densité surfacique de gaz, en me concentrant sur le gaz dense cette fois-ci, et densité surfacique de taux de formation stellaire. Donc chaque point ici représente une partie dense, si vous voulez, un nuage dans la Voie lactée. J'en ai sélectionné deux, ici, qui n'ont rien de particulier, ils sont le long de la relation, ni trop haut ni trop bas. Et je vais faire exactement la même mesure, mais quelques millions d'années plus tard. Donc comme il s'agit du gaz dense, certains nuages vont continuer à former des étoiles, vont continuer à s'effondrer, d'autres vont se faire disperser par des effets de fissaillement, par des effets de feedback, par les supernovas, etc. Donc toute ma relation va évoluer, c'est normal. Et c'est le cas, on obtient ceci, on obtient les points noirs quelques millions d'années plus tard. Et il se trouve que les deux points rouges, les deux nuages rouges, ont fusionné pour donner ce point noir ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce point, eh bien, cette fois-ci, il est bien au-dessus de la relation moyenne ou médiane du reste des nuages. Donc, ce qui veut dire qu'on a augmenté son efficacité relative par rapport aux autres nuages du fait de cette collision. Il s'agit exactement du même processus que dans les interactions galactiques. On prenait deux galaxies type Voie lactée, donc par exemple en rouge, et on les faisait monter sur une relation plus efficace dans le système des starbursts, des galaxies flambées de formation d'étoiles. C'est la même chose ici. À plus petite échelle, on déclenche la formation stellaire et de façon intéressante, alors ce n'est pas encore confirmé, mais de façon intéressante, la formation se fait sous la forme d'étoiles plus massives que d'ordinaire. Donc on ne respecte pas la fonction de masse initiale universelle dans ce genre de structure. Donc non seulement on change les propriétés du nuage lui-même, on augmente sa dispersion de vitesse, on augmente sa densité, son efficacité de formation d'étoiles, son taux de formation d'étoiles, mais aussi on change le type même d'étoiles qu'il forme. Et donc, avec ces aspects, on a véritablement une diversité de la formation d'étoiles, alors que dans la première partie, je vous ai parlé d'universalité. Donc, pour résumer, on a vu des variations dans le temps et dans l'espace des conditions physiques de la formation des étoiles, en termes de quantité de gaz, en termes de turbulence, en termes de composition chimique, en termes de dynamique galactique dans différentes régions de la galaxie. Mais on a également une apparente universalité des régions de formation en ce qui concerne la morphologie filamentaire au sein des nuages, les densités caractéristiques, les tailles des filaments, la fonction de masse initiale également. Et donc la superposition de ces deux aspects soulève un paradoxe. La formation stellaire est-elle à la fois universelle et diverse? Eh bien, pour lever ce paradoxe, je propose deux méthodes, deux processus. La première, c'est faire preuve de modestie et de considérer que nos observations sont incomplètes. Et la deuxième, c'est faire preuve d'encore plus de modestie et de considérer qu'on ne comprend pas, finalement, la physique de ce couplage d'échelle entre la dynamique, la diversité galactique et les structures internes des nuages. Alors, l'incomplétude observationnelle, ça revient à réaliser que ce que je vous ai montré en ce qui concerne l'universalité de la formation d'étoiles, c'est basé sur la structure interne des sites de formation, c'est-à-dire dans les endroits où on peut les résoudre observationnellement, et donc dans l'univers très proche, dans le voisinage solaire, au sein même de la Voie lactée. Et dans cet environnement, le voisinage solaire, on a finalement des conditions physiques qui sont à peu près partout les mêmes. Et finalement, ce qui revient à dire que ce n'est pas vraiment surprenant d'avoir une universalité si on se place dans les mêmes conditions physiques, avec très très peu de variations. Donc en d'autres termes, si je considère des galaxies en interaction ou des galaxies dans l'univers plus jeune, des galaxies au redshift, et si j'ai le télescope dont tout le monde rêve et qui me permet de résoudre les parties, les structures internes des régions de formation, est-ce que je vais retomber sur ma structure filamentaire du voisinage solaire? On ne sait pas. L'autre façon de lever le paradoxe, c'est d'admettre notre incompréhension du couplage d'échelles. En d'autres termes, existe-t-il une échelle en deçà de laquelle les différences, les diversités dont je vous ai parlé, sont lissées? Si oui, par quel phénomène, singulier ou pluriel, par quel processus physique, à quelle échelle et dans quelles conditions? Est-ce que ce lissage se passe de la même façon dans les galaxies en interaction, dans l'univers primordial ou pas? Et finalement, de se poser la question, mais cette fonction de masse initiale, universelle, l'est-elle vraiment? Eh bien, il existe de plus en plus de preuves que, eh bien, non, elle n'est pas universelle. Je vous en montre ici une illustration. Alors, sans entrer dans les détails, on reporte ici les rapports masse-luminosité des étoiles mesurées et normalisées au rapport masse-luminosité du voisinage solaire, c'est-à-dire de la fonction de masse universelle. Donc, si la fonction de masse était vraiment universelle, on s'attendrait à des distributions plates à valeur unité, c'est-à-dire les lignes ici. Et les points observationnels montrent clairement quelque chose de différent. Des variations de ces rapports de masse-luminosité en fonction de la dispersion de vitesse de ces galaxies, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a donc mesuré des variations de cette fonction de masse soi-disant universelle dans les galaxies elliptiques, dans les galaxies naines. Le problème, encore une fois, étant la difficulté de mesurer ces grandeurs. Et à l'heure actuelle, si vous donnez le même jeu de données à deux équipes différentes qui utilisent deux techniques différentes, elles peuvent obtenir des conclusions opposées. Donc on pense très fortement qu'il y a des variations, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi ni comment. Et donc ceci illustre notre incompréhension, ou notre compréhension incomplète en tout cas, des phénomènes de couplage d'échelles entre la dynamique galactique et cosmologique à très grandes échelles et la structure interne des nuages, c'est-à-dire notre compréhension des instabilités et de la formation stellaire pour comprendre s'il s'agit d'une diversité ou d'une universalité. Merci. Bravo.